Bien, eh bien, je vous propose de commencer, si vous voulez bien. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième cours. Donc, je vous rappelle le titre général de, la séance de cette année. Ça porte sur les fluides quantiques de basse dimension, et plus précisément la transition de Kosterlitz-Sawless, qui a été honorée par le prix Nobel de l'an dernier, enfin, il y a quelques mois, de 2016. Et le titre d'aujourd'hui, c'est donc « Gaz quantique en dimension 2, du cas idéal aux interactions binaires ». Alors, pour commencer, je vous rappelle où on en était, je vais laisser un peu la lumière, où on en était à la fin du premier cours. À la fin du premier cours, on a pris une approche historique, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question que s'était posée en premier Pyles dans les années 30, qui était d'essayer de voir si, à température non nulle, il y avait un espoir d'avoir de l'ordre au sens cristallin du terme, dans un fluide de particules en interaction à courte portée. Et la réponse qu'on avait apportée était négative, c'était la réponse de Pyles, qui avait été ensuite confirmée par Mermin, Wagner et Hohenberg. La réponse est négative au sens suivant, c'est-à-dire que si je prenais deux atomes de ce cristal espéré à deux dimensions, si je regardais l'écart U0 de l'atome de référence, l'écart UJ d'un atome ici, si je regardais ensuite la moyenne thermique de la variance UJ-U0 quand la distance entre l'atome 0 et l'atome J tend vers l'infini, eh bien ce qu'on avait trouvé, c'est que cette variance tendait elle-même vers l'infini. C'est-à-dire que même si je savais exactement où était l'atome 0, eh bien, à suffisamment longue distance, je n'avais aucune information à l'échelle de la maille cristalline sur la position de l'atome J. Autant dire qu'il n'y avait pas d'ordre à longue portée, donc un cristal au sens strict du terme ne peut pas exister en dimension 2 et encore moins en dimension 1. En revanche, cette même quantité, quand on la regarde à trois dimensions, c'est ce que je vous avais expliqué, elle tend bien vers une limite finie quand la distance entre atome 0 et l'atome J tend vers l'infini. Donc si cette limite finie est beaucoup plus petite que la maille du cristal, eh bien, ça veut dire que le cristal existe, tout va bien. Donc on était arrivé à cette conclusion qu'il n'y avait pas d'ordre à longue portée en dimension réduite. Et néanmoins, il peut se passer des choses, c'est pour ça qu'il y a eu un prix Nobel l'an dernier. Et donc le but de toute cette série de cours, c'est de montrer qu'il peut néanmoins y avoir ce qu'on appelle un quasi-ordre qui peut exister dans ces systèmes en dimension réduite. La transition entre l'état désordonné qu'on a à haute température et ce quasi-ordre n'est pas une transition au sens habituel, une transition de phase au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans la classification de Landau, les transitions du premier ordre, du deuxième ordre. C'est une transition qui est d'ordre infini et c'est une transition qui est médiée par les défauts topologiques qui se séparent les uns avec les autres. C'est ça qu'on va essayer de voir dans les cours qui vont suivre. Donc, on va se spécialiser non pas dans les cristaux, parce que c'est finalement les cristaux sont un petit peu compliqués. Je vous avais donné quelques exemples la semaine dernière. Ce qui se passe dans les cristaux n'est pas si simple. On va en fait s'intéresser à un système qui est plus simple, qui est un fluide de particules qui obéit à la statistique de Bose-Einstein. Et à ce moment-là, cette transition qu'on va observer, en fait, c'est une transition entre un comportement normal à haute température et un comportement superfluide à basse température, comportement superfluide qui existe, bien encore une fois que l'ordre au sens habituel du terme ne puisse pas se produire à cause de ce théorème de Mermin, Wagner et Hohenberg. Voilà, donc le thème général des cours, c'est d'étudier cette transition entre ce comportement normal et ce comportement superfluide via une transition de type BKT. Alors BKT, je vous rappelle quelles sont ses initiales, c'est bien sûr Kosterlitz-Sawless qui ont été honorés du prix Nobel l'an dernier, et puis également Berezinski, qui est mort peu de temps après cette prédiction dans les années 70, Berezinski est mort en 80. Donc on nomme cette transition des trois noms de ces découvreurs. Alors le but du cours d'aujourd'hui va être, je dirais, assez basique, parce que bon, j'ai envie de progresser de manière régulière vers cette transition BKT, mais aujourd'hui on va commencer par quelque chose de simple, qui est le gaz parfait. Donc on va s'intéresser au gaz parfait, mais au gaz parfait non pas tel qu'Einstein l'avait considéré dans ses fameux articles de 1923-1924, mais au gaz parfait en dimension 2. Et le but, c'est de voir comment est-ce que l'argument d'Einstein sur ce que Einstein avait appelé le gaz parfait saturé, comment est-ce que cet argument est modifié. Et on considérera deux situations qui sont, vous le verrez, différentes. Celle du gaz uniforme, donc un gaz qui remplit une boîte à fond plat avec une dimension de la boîte qui peut tendre vers l'infini quand on prend la limite thermodynamique, et puis un gaz confiné dans un piège harmonique. Alors, ça peut sembler un peu académique comme problème d'étudier un gaz parfait. Néanmoins, il y a une implémentation qui a été faite récemment et que j'aimerais discuter assez intensivement parce que je trouve que c'est vraiment une très jolie expérience qui donne une vision nouvelle sur ces systèmes qui ont été étudiés, c'est savoir ces assemblées de photons dans des cavités. Les expériences que je vais décrire sont des expériences faites dans le groupe de Martin Weitz à Bonn, et on verra qu'on peut interpréter ces expériences faites sur des photons simplement en termes de condensation de Bose-Einstein à deux dimensions. Et ces expériences-là qu'on verra, donc qui portent seulement sur des photons, nous serviront ensuite comme tremplin pour d'autres systèmes qu'on étudiera dans des cours suivants, qui sont des systèmes un peu plus compliqués, qui sont des systèmes de polaritons, qui sont des objets hybrides, photons et puis matière, plus précisément photons et excitons. Mais donc là, on ne va pas parler de polaritons, on va parler simplement de photons dans le cours d'aujourd'hui. Et puis, ce qu'on va découvrir donc, dans le cours d'aujourd'hui, c'est que finalement, le gaz parfait, ben, il est assez pauvre, c'est-à-dire que lui, il ne présente pas de transition de Coriolis-Sorel-Lewis. La transition de Coriolis-Sorel-Lewis va pouvoir se produire, mais seulement si je rajoute des interactions entre les particules. Et donc, la dernière partie du cours d'aujourd'hui consistera à faire un premier pas au-delà du gaz parfait, introduire ces interactions, mais on les introduira de manière la plus élémentaire possible, c'est-à-dire qu'on se posera le problème à deux corps, à deux dimensions en physique quantique. Et vous verrez que ce problème à deux corps, à deux dimensions en physique quantique, ce n'est pas trivial, et c'est un problème qui donc, est notablement différent de ce qui se passe à 3D, donc j'aimerais vous donner quelques éléments là-dessus. Alors, commençons donc par le gaz parfait tel qu'on le connaît tous. Donc, je prends des particules quantiques dans une boîte, boîte à fond plat pour l'instant, hein, pas de potentiel harmonique. Je prends des conditions limites périodiques pour simplifier l'analyse. Et donc, on sait tous, je pense, que les états propres d'une particule dans une boîte, si je prends des conditions limites périodiques, eh bien, ce sont simplement des ondes planes. C'est donc des fonctions d'ondes qui sont du type puissance I P scalaire sur H bar. C'est des fonctions qui sont caractérisées par l'impulsion P qui leur est associée. J'ai mis ici devant le coefficient de normalisation qui est 1 sur le racine du volume de la boîte. Donc en l'occurrence, c'est une boîte à deux dimensions, donc c'est racine d'une R. Je prends une boîte carrée, donc l'R c'est L carré. L'impulsion P qui vient dans cette fonction d'onde est quantifiée parce que je me mets dans une boîte que pour l'instant je garde de taille finie. Donc les impulsions P, compte tenu des conditions limites périodiques, sont simplement quantifiées sous la forme suivante. 2 pi h bar divisé par le côté de la boîte grand L fois un couple de nombres entiers, nx, ny, c'est des entiers relatifs qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Et à chaque couple de nombres entiers nx, ny, j'associe un état indépendant de ma particule. Et l'énergie associée à une onde plane d'impulsion P, c'est bien sûr l'énergie cinétique P carré sur 2m. Voilà, donc ça, c'est simplement de la physique à une particule. Maintenant, quand on fait la thermodynamique de ce système de particules et qu'on suppose qu'on a affaire à des bosons, eh bien, si les particules n'interagissent pas entre elles, on sait qu'on aboutit à une loi qui est donnée par la statistique de Bose-Einstein, qu'on avait étudiée en détail dans le cours de l'an dernier, donc je vous la redonne sans explication, mais elle est dans tous les manuels de physique statistique pour ceux qui voudraient la revoir. Le nombre de particules à l'équipe thermodynamique à l'impulsion P, c'est simplement caractérisé par deux paramètres, la température du système et son potentiel chimique, et ça s'écrit sous la forme 1 sur exponentielle de EP, l'énergie, moins mu, le potentiel chimique, divisé par KT, moins 1. Donc, cette loi, on la réécrit assez fréquemment en remplaçant le potentiel chimique, la variable potentiel chimique mu, par une variable qu'on appelle fugacité, qui est une variable sans dimension, qui est simplement l'exponentielle du potentiel chimique divisé par kt. Et à ce moment-là, on réécrit cette loi sous la forme 1 sur z, exponentielle de ep sur kt moins 1. Voilà. Donc, il faut deux variables pour définir l'état du système, la température et le potentiel chimique. Si vous préférez utiliser d'autres variables, vous pouvez dire qu'il faut la température et puis le nombre de particules. Le nombre de particules se déduit simplement en faisant la somme de tous les n de p et en disant que c'est le nombre de particules que vous avez mis. Vous pouvez aussi préférer paramétrer en termes de nombre de particules et d'énergie. Disons qu'il faut toujours deux variables, mais vous prenez celles que vous préférez. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi ces deux variables qui sont T et mu. Alors, un concept important pour comprendre la singularité du gaz parfait à deux dimensions par rapport à ce à quoi on est habitué à 3D, c'est le concept de densité d'état. Très souvent, on est amené à effectuer des moyennes ou des sommes sur les états d'impulsion P. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à une impulsion P donnée, mais je suis amené à faire la somme de ce qui se passe sur toutes les impulsions P. Donc je me donne une quantité physique F qui dépend de l'impulsion, et je suis amené à calculer cette somme sur tous les états d'impulsion P de F de P. Alors la semaine dernière, je vous avais expliqué que quand on avait à faire calculer comme ça une somme, on n'a pas tellement d'outils pour calculer les sommes, en revanche on a beaucoup plus d'outils pour calculer les intégrales, et donc à la limite d'une très grande boîte, les impulsions P successives sont très voisines les unes des autres, puisque je vous rappelle qu'elles sont quantifiées en 2 pi h bar sur L, donc quand L tend vers l'infini, l'écart entre deux impulsions P données de la boîte tend vers zéro. Donc on peut remplacer la somme discrète par une intégrale de Riemann habituelle. Et le facteur qu'on doit mettre en face, c'est L sur 2 pi h bar au carré fois donc F de P, dpx, dpy. Alors très souvent, la quantité F de P en fait ne dépend pas vraiment de la direction du rayon vecteur P, mais ça dépend simplement du module de P. En d'autres termes, elle dépend de l'énergie, puisque l'énergie, c'est P carré sur 2m. Et donc, plutôt que d'intégrer sur Px et Py, on préfère intégrer sur l'énergie. Mais évidemment, comme toujours, quand on fait de l'intégration, quand on change de variable, il faut faire attention au changement de variable, au jacobien. Et donc, on introduit ce qu'on appelle une densité d'état D2E, qui est simplement le jacobien quand on passe de l'intégrale à Px, Py, à l'intégrale sur E. Donc cette densité d'état D2E qu'on introduit ici, c'est simplement, pour le dire en termes physiques, ça provient d'un décompte où on se donne donc une tranche d'énergie entre E et E plus DE, et on compte combien est-ce qu'on a d'état, caractérisé par PX et par leur PX et leur PY, dans cette tranche d'énergie E, E plus DE. Je détaille un petit peu parce que c'est un point important et parfois qui laisse les gens un peu rêveurs. Donc la densité d'état, c'est simplement ça, c'est un décompte du nombre d'états dans une tranche d'énergie donnée. Et le point essentiel, que je vais justifier dans un instant, c'est que quand on est à deux dimensions, eh bien, cette densité d'état D2E est indépendante de l'énergie, en fait. Donc le D2E ici est une constante que je peux sortir de l'intégrale. En revanche, à trois dimensions, quand vous faites le même calcul, vous trouvez que la densité d'état n'est pas indépendante de l'énergie, elle dépend de l'énergie comme une racine de E. Alors pourquoi est-ce qu'à deux dimensions, on a cette particularité d'une densité d'état constante? Eh bien, c'est assez simple à voir, ça se voit graphiquement. Je vous ai dit que les impulsions sont quantifiées. Je vous ai dit que les impulsions P sont repérées par un couple de nombres entiers nx, ny. Donc si je me place dans le plan avec px en axe des abscisses et py en axe des ordonnées, eh bien, les impulsions possibles, c'est des points dans ce plan, chaque point étant distant de son voisin d'une quantité de pi h bar sur L. Et des états d'énergie donnés, dans ce plan toujours, puisque c'est des états donc p carré sur 2m égale E, donc ça correspond à l'équation d'un cercle, simplement d'un cercle de rayon racine de 2ME. Donc, évaluer la densité d'état dans ce système, c'est donc se donner une tranche d'énergie entre E et E plus DE, c'est donc se donner un anneau, ici. Le rayon interne de l'anneau, c'est racine de 2ME, c'est ce qu'on déduit de ça. Le rayon externe, c'est racine de 2ME plus DE, DE étant la largeur de la tranche. Et il s'agit donc de compter combien est-ce qu'il y a de points dans la zone grisée qui est là. Alors ça, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est calculer l'aire de l'anneau. Donc l'aire de l'anneau, c'est l'aire du disque extérieur pi fois le rayon au carré moins l'aire du disque intérieur pi donc fois le rayon racine de 2m au carré. Racine de E plus DE au carré, ça me donne E plus DE. Racine de E au carré, ça me donne E. Donc les E s'éliminent quand je fais la différence. Et tout ce qui me reste, c'est 2m pi fois DE. Donc j'obtiens bien quelque chose pour l'aire de l'anneau qui est indépendante de E. Et comme maintenant la densité de points dans le plan est uniforme, puisque les points sont uniformément répartis tous les 2π h bar sur L, eh bien j'obtiens simplement ma densité d'état en prenant ce 2mπ qui vient de l'aire de l'anneau, fois la densité d'état dans le plan, qui est simplement ce L sur 2π h bar, l'inverse de ce coefficient au carré, puisque je suis à deux dimensions, et j'obtiens cette densité d'état qui fait donc intervenir l'aire de ma boîte, L carré, et puis les constantes fondamentales. Donc j'obtiens quelque chose qui est effectivement indépendant de l'énergie. Et ça, c'est spécifique à deux dimensions. Si je suis à trois dimensions, ce que je dois considérer, ce ne sera plus un anneau, mais ce sera une coquille sphérique, comprise donc entre E et puis E plus DE. Il faudra que j'évalue non pas l'aire de l'anneau, mais le volume de cette coquille sphérique. Le volume va varier comme le rayon au cube. Et quand je prendrai le rayon au cube ici, au lieu de prendre le rayon au carré, bien à ce moment-là, j'aurai des racines de E qui resteront. Et c'est pour ça qu'à trois dimensions, la densité d'état dépend de l'énergie, alors qu'à deux dimensions, elle n'en dépend pas. Alors ça, c'est une conséquence très importante sur l'argument d'Einstein de 1924. Cet argument d'Einstein de 1924, je vais le rappeler parce que c'est toujours bon de l'avoir en mémoire et il n'est pas souvent présenté tel qu'Einstein l'avait imaginé dans les livres de physique statistique. Donc je vous rappelle ce qu'Einstein avait en tête en 1924. Einstein avait intitulé son article « Le gaz parfait saturé ». Et ce qu'Einstein avait mis en avant dans son article, c'est la chose suivante. C'est que si vous prenez une boîte comme ça, et que vous prenez donc ces états d'énergie qui correspondent au P carré sur 2m ou P quantifié, eh bien, le nombre de particules que vous pouvez placer dans tous les états excités, c'est-à-dire si vous faites la somme des N de P sur tous les états en excluant l'état fondamental, l'état P égale 0, eh bien, vous trouvez quelque chose qui est borné si vous placez à température fixée. Et la démonstration est presque évidente. La démonstration repose sur la statistique de Bose-Einstein. Vous prenez cette loi de Bose-Einstein que j'avais écrite tout à l'heure, c'est donc 1 sur exponentielle de EP moins mu sur KT moins 1, et le point essentiel à remarquer, c'est que le potentiel chimique mu, qui va donc servir à calibrer le nombre de particules dans le système, ce potentiel chimique mu, il est toujours inférieur, strictement, à l'énergie de l'état fondamental. Donc le potentiel chimique mu, qui est donc une énergie, il est toujours situé dans la demi-droite qui est en dessous de 0. Si jamais je mettais le potentiel chimique mu au-dessus de 0, eh bien dans cette formule-ci, vous trouveriez un nombre de particules dans l'état fondamental qui serait négatif, ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc si je veux que le nombre de particules soit pour chaque état positif, eh bien je n'ai pas le choix, il faut que le potentiel chimique soit inférieur à l'énergie de n'importe quel état, donc en particulier l'énergie de l'état fondamental. Et une fois que vous avez dit ça, eh bien l'argument d'Einstein tombe tout de suite, parce que c'est une simple inégalité. Si mu est plus petit que 0, et je vais prendre E0 égale 0 ici, puisque dans ma boîte, l'état fondamental, c'est P égale 0, donc l'énergie vaut 0. Si mu donc est négatif, eh bien, cette somme-là, la somme sur tous les états excités, est toujours inférieure à cette même somme quand je remplace mu par 0. Alors, je suis obligé d'exclure l'état fondamental de cette somme, parce qu'évidemment, ça n'aurait pas de sens de garder ici l'énergie, de garder l'état fondamental là-dedans, puisque j'obtiendrai 0 exponentielle de 0 moins 1, exponentielle de 0 c'est 1, donc j'obtiendrai l'infini. Donc ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'information. Mais si j'exclus l'état fondamental de cette somme, eh bien là j'obtiens une somme qui a priori est finie à ce stade, et donc j'en déduis tout de suite, comme ça, que le nombre de particules que je vais pouvoir mettre dans ces états-là est borné par cette fonction qui ne dépend que de la température. Quel que soit le potentiel chimique que je prends, j'ai cette borne-là, et puis j'atteindrai cette borne quand je ferai tendre le potentiel chimique vers 0, c'est-à-dire quand mon potentiel chimique qui est négatif se rapprochera de plus en plus près de l'énergie E0. Alors ça, c'est toujours vrai, hein, et la chose qu'a fait Einstein, c'est de remplacer cette somme discrète par une intégrale, exactement de la même façon que ce que j'ai décrit plus tôt. Je vous prenais cette somme, qui est donc une somme qui est une somme sur l'impulsion, mais qui en fait ne dépend que de l'énergie. Donc vous remplacez cette somme par ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, c'est-à-dire le jacobien, cette densité d'état d2e fois dE, divisé par la fonction qui m'intéresse, ce exponentiel de e sur kt moins 1. Et si l'intégrale a un sens, eh bien, on a la condensation de Bose-Einstein, telle qu'elle est expliquée dans l'article d'Einstein de 1924. Toute la question est de savoir si cette intégrale ici a vraiment un sens. Quand je remplace une somme discrète par une intégrale, il y a toujours un risque que l'intégrale diverge, soit dans sa borne inférieure, soit dans sa borne supérieure, et à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas beaucoup progressé, parce que là, j'ai remplacé quelque chose qui était fini par quelque chose qui devient infini. Donc toute la question de savoir si cette intégrale que j'ai écrite ici converge ou pas, à la fois en zéro la borne inférieure, et en plus l'infini, la borne supérieure. Alors, regardons ça ensemble. La convergence en plus l'infini, ben, elle, je dirais, elle a strictement aucun, il n'y a aucun souci de ce côté-là, puisque la densité d'état des deux E, je vous ai dit, à deux dimensions, elle est constante, à trois dimensions, elle diverge, mais gentiment, comme racine de E, alors que vous avez en face de cette divergence douce ou de cette constance, vous avez ici une exponentielle, qui est le dénominateur, qui est exponentielle plus E sur KT, donc quand E va devenir très grand, je vais pouvoir négliger le moins 1 qui est là, et je vais me récupérer avec un exponentiel moins E sur KT au numérateur, et cette exponentielle décroissante, violente, donc, eh bien, elle va compenser toutes les croissances possibles de D2E. Donc il n'y a aucun souci à avoir côté borne supérieure, côté plus l'infini, je suis sûr que mon intégrale va converger. Donc le problème n'est pas dans la borne supérieure, aux énergies, aux grandes énergies, il n'y a aucun souci à avoir grâce à la loi de Bose-Einstein. En revanche, on peut avoir un problème en E égale 0. En E égale 0, on peut avoir un problème. Ce problème ne se présente pas à 3D, mais vous allez le voir, il se présente à 2D. Alors qu'est-ce qui se passe au voisinage de 0 ? Au voisinage de 0, on peut faire un développement limité du dénominateur, que je fais en détail ici parce qu'on va le réutiliser très très fréquemment aujourd'hui et dans les autres cours. Donc ce développement limité, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à prendre 1 sur et puissance E sur KT moins 1, et dire que si E est proche de 0, ici, puisque je m'intéresse à la borne inférieure, donc l'argument de l'exponentielle est petit devant 1, donc je peux linéariser l'exponentielle. Donc la remplacer par 1 plus son argument, donc E sur KT, j'ai toujours le moins 1 qui est là, donc le plus 1 qui est ici et le moins 1 qui est là se simplifie, il me reste simplement 1 sur E sur KT, donc c'est-à-dire KT sur E. Donc cette chose-là, qui est écrite ici, le dénominateur, diverge comme 1 sur E au voisinage de 0. Maintenant, si vous êtes à 3 dimensions, et donc que la densité d'état varie comme racine de E, vous avez du racine de E au numérateur, du E ici au dénominateur, donc vous récoltez un 1 sur racine de E à la fin, et l'intégrale de 1 sur racine de E est convergente en E égale 0, donc l'intégrale qu'Einstein avait écrite a bien un sens, elle converge, et donc, quand on fait le passage à la limite thermodynamique, qui consiste précisément à prendre cette intégrale, eh bien, il n'y a pas de souci à avoir. On a effectivement une borne supérieure au nombre de particules dans l'état excité qui est significative, et la condensation se produit bien. Donc, tout va bien de ce côté-là. Si je suis... Ah oui, pardon, non, je passe pas tout de suite à deux dimensions, je vous donne juste donc, la valeur de l'intégrale, parce que je vous dis qu'on pouvait la calculer, mais je donne quand même le résultat pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Donc quand vous calculez l'intégrale, ce que vous trouvez, c'est que donc, cette borne pour n excité de t et de mu, eh bien, ça varie comme L cube sur lambda t cube, fois un coefficient numérique. L cube, c'est donc le volume de la boîte à 3D. Lambda t, c'est la longueur d'onde, ce qu'on appelle la longueur d'onde thermique. C'est l'échelle de longueur caractéristique que je peux sortir pour mes particules de masse m à température t. C'est donc h bar sur racine de mkt. Racine de mkt, c'est une impulsion caractéristique à température t. H bar sur une impulsion, c'est une longueur. Donc, au facteur racine de 2 pi près, c'est quelque chose qu'on comprend bien. Et le 2.612 qui sort ici, c'est un coefficient numérique qui sort quand on calcule l'intégrale explicitement, et c'est simplement la somme des 1 sur n puissance 3,5, somme de n égale 1 à l'infini. Et ça, je dirais, c'est de la technique mathématique, mais le point important, c'est que ce nombre d'atomes est borné par L cube sur lambda T cube. Ce qui est une manière encore plus agréable d'écrire ça, c'est d'introduire une quantité sans dimension qui est très significative, qui est ce qu'on appelle la densité dans l'espace des phases. Et ces densités dans l'espace des phases, eh bien, je l'obtiens en prenant le nombre de particules grand N, en le divisant par le volume de la boîte, donc je fais apparaître ici N sur L cube, qui est simplement la densité spatiale, je multiplie ça par lambda T cube, et cette chose-là me dit donc que la densité dans l'espace des phases, en passant le lambda T au numérateur ici et le L au dénominateur, que la densité dans l'espace des phases est toujours plus petite que 2612. Alors, cette densité dans l'espace des phases, je vous donne tout de suite une interprétation physique qu'il faut garder en mémoire. Hein. Ce lambda T que j'ai sorti ici, je vous ai dit, c'est la longueur caractéristique que je suis capable de faire avec des particules de masse m et une température t. Donc, c'est en quelque sorte l'extension typique des paquets d'ondes que je peux former à température t pour décrire mes différentes particules. Donc, lambda t, il faut voir ça comme ça, comme une extension de paquets d'ondes à cette température-là, à la température t. Et n sur L cube, donc ça, c'est, je vous dis, c'est la densité spatiale, donc 1 sur racine cubique de la densité spatiale, c'est la distance entre particules moyennes. Donc finalement, cette densité dans l'espace des phases ici me compare, si vous voulez, lambda t cube, qui est donc le volume d'un paquet d'ondes, et puis L cube sur n, qui est le volume occupé par une particule donnée, le volume accessible à une particule donnée. Donc quand la densité dans l'espace des phases est petite devant 1, ça veut dire que la taille de mes paquets d'ondes est petite devant la distance moyenne entre particules, les paquets d'ondes ne se recouvrent pas les uns avec les autres, petite dans l'espace des phases, finalement, ça veut dire que les particules s'ignorent sur le plan quantique, alors que grande densité dans l'espace des phases, ça veut dire que lambda t devient grand devant la distance moyenne entre particules, les paquets d'ondes se recouvrent, et les effets de statistique quantique jouent un rôle essentiel. Donc, quand on essaie de mettre l'argument d'Einstein en termes de cette densité dans l'espace des phases, là, eh bien, finalement, la condensation prédite par Einstein peut se mettre sous cette forme-là. Vous tracez ici, en fonction de la densité dans l'espace des phases totale d, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous rajoutez des particules à température donnée, par exemple, vous tracez ici, d'une part, la densité dans l'espace des phases pour les atomes dans l'état excité, c'est-à-dire ce qui se passe pour tous les états qui sont au-dessus de zéro, ça c'est en bleu. En rouge, vous tracez la densité dans l'espace des phases associée à l'état fondamental zéro. Et vous avez, donc, dans ce diagramme-là, quelque chose qui est très simple. Quand vous partez d'une densité dans l'espace des phases très faible, les paquets d'ondes ne se recouvrent pas les uns avec les autres, et essentiellement, aucune singularité ne se produit dans le système. Certes, il y a des atomes dans l'état zéro, mais leur fraction n'est pas du tout macroscopique, et la distribution est parfaitement régulière. Et donc, à la limite thermodynamique, la densité de l'espace des phases dans zéro est quasiment nulle, donc elle reste très basse ici, et essentiellement, les particules, quand vous en mettez, se répartissent de manière régulière dans tous les états, donc la densité dans l'espace des phases associée aux états excités croît linéairement avec une pente 1, jusqu'à ce que vous atteigniez le seuil qui est écrit ici, donc qui serait écrit en disant que le nombre de la densité de l'espace des phases ne peut pas dépasser le 2.612, quand vous faites passer le seuil cube sur le daté cube à gauche. Et puis à partir de là, vous ne pouvez plus rien mettre dans les états excités, ça sature complètement, et toute nouvelle particule doit obligatoirement aller se mettre dans l'état fondamental, et donc vous avez cette fois-ci cette croissance linéaire de D0 avec une pente 1 en fonction de la densité de l'espace total. Donc, le gaz parfait saturé d'Einstein se résume vraiment sous cette manière-là en termes de densité de l'espace des phases. Bien, donc ça, c'est à trois dimensions. Et encore une fois, pour ceux qui veulent en savoir plus, on avait étudié ça assez en détail dans le cours de l'an dernier et c'est fait dans beaucoup de manuels de physique statistique. Revenons à 2D, qui est le problème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on reprend cette intégrale écrite par Einstein ici et on se souvient maintenant qu'à deux dimensions, la densité d'état, ici, des deux E, est indépendante de E. Par ailleurs, donc le dénominateur, j'ai déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, ça se comporte comme KBT sur E au voisinage de E égale 0. Et donc, au voisinage de E égale 0, je me retrouve avec une intégrale qui est KBT que j'ai sorti de l'intégrale, et puis 1 sur E. Là où j'avais 1 sur racine de E à 3D, j'ai maintenant 1 sur E. Et cette intégrale-là, évidemment, va diverger en 0, va diverger logarithmiquement. C'est un nouveau logarithme qui apparaît à deux dimensions. Ce ne sera pas le dernier, vous allez en voir d'autres aujourd'hui. C'est un nouveau logarithme qui apparaît à deux dimensions et l'intégrale diverge. Donc cette borne-là n'est pas significative. Je suis simplement en train de vous dire que le nombre d'atomes dans l'état excité est borné par plus l'infini, mais ça, ce n'est pas vraiment une information intéressante. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'à température fixée, je peux mettre un nombre arbitrairement élevé de particules dans les états excités quand on mute envers zéro. Il n'y a pas de saturation, il n'y a pas de population macroscopique qui apparaît dans l'état fondamental quand je suis à trois dimensions, quand je suis à deux dimensions. Pardon. Alors, on peut néanmoins aller un petit peu plus loin que simplement ce constat négatif et s'intéresser à la question est-ce qu'il y a quand même toujours des effets de statistique quantique? Et la réponse est oui, les effets de statistique quantique ne sont pas absents, simplement, ils ne se manifestent plus par une singularité dans la distribution en position ou en impulsion. Comment le voir, ça? Une manière de le voir, c'est de regarder la distribution en impulsion du gaz de Bose à deux dimensions. Je vous ai tracé ici cette distribution en impulsion, donc je vous avais ici en abscisse l'impulsion, et puis en ordonnée, je vous ai mis en coordonnées logarithmiques le nombre de particules dans un état d'impulsion P. Alors j'ai choisi des variables sans dimension, donc plutôt que de mettre ici P, j'ai mis la variable sans dimension associée à P, c'est-à-dire que j'ai multiplié P par lambda T, qui est donc l'échelle de longueur caractéristique pour le problème, et j'ai comme ça, en multipliant P par une longueur, j'obtiens une action, je divise par H bar pour avoir quelque chose sans dimension. Si vous voulez vous raccorder à des choses plus familières, peut-être, vous pouvez vous convaincre facilement que si P lambda T sur H bar vaut 1, ça veut dire simplement que P carré sur 2M est égal à KBT à un facteur numérique 1 sur 4 pi près. Donc, quand on trace cette distribution d'impulsion pour un gaz parfait, en utilisant donc la loi de Bose-Einstein, voilà ce qu'on trouve. Quand la densité de l'espace des phases est basse, ici j'ai pris 0,1, donc une grande distance entre paquets d'ondes, j'obtiens quelque chose qui est simplement en fait, la gaussienne de Maxwell-Boltzmann, exponentielle moins p carré sur 2m. Comme je suis en coordonnées logarithmiques, une gaussienne, ça devient une parabole, puisque log d'une gaussienne, c'est moins p carré. Donc j'obtiens une distribution ici gaussienne sans aucune singularité. Mais là, je suis dans le cas non dégénéré, je suis dans le cas où les effets de statistique quantique ne jouent pas de rôle. J'augmente la densité dans l'espace des phases, je passe de 0,1 à 0,3, j'obtiens la courbe rouge qui est là. J'ai simplement multiplié tout par un facteur numérique, rien d'anormal. Une multiplication en coordonnées logarithmiques, ça devient simplement une translation de la courbe, donc j'obtiens la courbe rouge qui est simplement une translatée de la courbe bleue. Puis j'obtiens cette courbe violette qui est là, et puis là, je commence à toucher avec en noir une densité d'espace de phase de 3. Donc là, ça commence à devenir, les effets statistiques quantiques commencent à devenir significatifs. Et je trouve que j'ai une accumulation de particules au voisinage de P égale 0. Et puis quand je continue à prendre une densité de plus en plus grande, je trouve de plus en plus de particules dans cette zone-là, dans la zone de P petit, c'est-à-dire P de l'ordre ou inférieur à H bar sur lambda T. Donc, encore une fois, il n'y a pas de singularité, c'est-à-dire que je n'obtiens pas une distribution de Dirac en P égale 0 comme ce que j'obtiendrai à trois dimensions, mais j'obtiens quand même bien des choses qui sont significativement différentes d'une distribution de Maxwell-Boltzmann, puisque toutes les particules en excès vont se mettre dans une zone d'impulsion plus petite que H bar sur lambda T. Et si vous voulez essayer d'avoir une intuition de ce qu'est la forme de cette courbe ici, ben, on peut revenir au développement de l'exponentielle que j'ai fait tout à l'heure dans cette description de Bose-Einstein. J'ai dit que j'avais l'exponentielle d'un nombre qui était plus petit que 1 ici, quand p est voisin de 0. Donc cette exponentielle de p carré sur 2m moins mu moins 1, je peux toujours la réécrire en faisant la même gymnastique que ce que j'ai fait tout à l'heure, comme p carré sur 2m, qui est donc l'argument de l'exponentielle, moins mu. Mais mu, je vous rappelle, est toujours négatif, donc je le réécris ici, plus module de mu. Et ce que vous voyez apparaître, c'est qu'en fait, la distribution à l'impulsion, en fait, ici, eh bien, c'est une distribution lorentzienne, simplement. Donc, vous pouvez comprendre cette distribution qui apparaît dans le cas du gaz parfait à deux dimensions comme la superposition, pour le dire vite, de la gaussienne de Maxwell-Boltzmann qui sature à une valeur qui correspond à la fugacité donc de 1, qui est le maximum que je peux faire, potentiel chimique 0, plus une lorentzienne au centre qui va accumuler toutes les particules qui viennent au-delà de cette gaussienne saturée. Alors voilà, donc ça c'est bien à mettre en opposition à la distribution de Dirac qui apparaît à 3D. Une autre manière de caractériser un gaz de Bose, c'est de regarder sa cohérence spatiale. Toujours à 3 dimensions, le fait qu'on ait une distribution de Dirac qui apparaisse dans P égale 0, ça veut dire qu'on a une corrélation spatiale arbitrairement longue dans le gaz. C'est-à-dire que si je prends deux points très loin l'un de l'autre, à trois dimensions, eh bien j'ai un ordre à longue portée. Si je connais la phase en ce point-ci, je connais la phase en ce point-là, quelle que soit la distance entre les deux points que j'ai considérés. C'est la condensation telle qu'on l'apprend dans les livres. À deux dimensions, vous allez voir, ce n'est pas ça qui se passe. Et un moyen simple d'évaluer ce qui se passe, c'est donc, pour caractériser la cohérence spatiale, c'est de regarder donc cette quantité G1 de RR' qui caractérise précisément la phase au point R et la phase au point R', qui s'obtient en prenant la matrice densité à un corps ρ1 et en regardant son élément de matrice entre ces deux points R et R'. Et cette quantité, en fait, elle se calcule simplement, là encore, je l'avais fait l'an dernier, je l'ai remis dans la démonstration dans les notes, c'est simplement la transformée de Fourier de la distribution d'impulsion, cette quantité-là. Donc, je dois prendre la distribution d'impulsion que je vous ai donnée à la diapositive précédente, prendre sa transformée de Fourier et voir ce que j'obtiens quand je prends quand je calcule ce G1. Et le résultat est le suivant. À petite densité dans l'espace des phases, eh bien, j'obtiens quelque chose qui, comme je prends la transformée de Fourier d'une gaussienne, je récupère une gaussienne, donc ça décroît très très vite avec la position à l'échelle de lambda t. Et puis, quand j'augmente la densité dans l'espace des phases, donc je passe de la courbe bleue à rouge, puis à violette, puis à noir, etc., eh bien, la contribution de la lorentzienne que j'avais au centre devient de plus en plus importante, et la transformée de Fourier d'une lorentzienne, vous le savez peut-être, c'est simplement une exponentielle décroissante. Et donc, ce qu'on récupère pour G1 ici, eh bien, c'est une exponentielle décroissante avec une longueur de décroissance L qui dépend de la densité dans l'espace des phases, qui augmente très vite avec la densité dans l'espace des phases, mais néanmoins, j'ai une décroissance, un G1 qui décroît exponentiellement. Donc, je n'ai pas d'ordre à longue portée dans ce système, puisque la fonction G1 décroît exponentiellement avec la distance. Simplement, la longueur caractéristique de la décroissance, eh bien, c'est l'inverse de la largeur de ma lorentzienne de tout à l'heure, et comme ma lorentzienne a une largeur qui devient de plus en plus petite quand j'augmente la densité dans l'espace des phases, eh bien, cette longueur de cohérence, elle, au contraire, augmente de plus en plus vite. Alors là, je vous ai parlé de transformée de Fourier d'une lorentzienne qui donnait une exponentielle. Ça, stricto sensu, c'est vrai à une dimension. À deux dimensions, c'est un petit peu plus compliqué. La transformée de Fourier fait intervenir une des fonctions spéciales, des fonctions de Bessel. Simplement, le terme dominant de la fonction de Bessel, c'est bien ce que j'ai écrit là, donc j'ai à peine menti en disant ça. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur le gaz de Bose à deux dimensions uniformes. On n'a pas d'ordre à longue portée à cause de cette décroissance exponentielle de la fonction G1. On n'a pas de condensation, on n'a pas d'accumulation macroscopique de particules dans l'état P égale 0. Donc, finalement, cette situation est assez pauvre. Hein. Je n'ai pas rencontré sur mon chemin de transition de phase. Regardons ce qui se passe dans un piège harmonique à deux dimensions. C'est intéressant de regarder ça parce que finalement, il y a beaucoup de manips, au moins sur les gaz d'atomes froids, qui sont faites dans des pièges harmoniques. Donc, Regardons comment est-ce que nos conclusions sont modifiées si on bascule d'une boîte à un piège. Alors, quand on prend des particules dans un piège harmonique, il faut commencer par regarder de nouveau la structure des états propres à une particule dans ce piège. Et ça, c'est quelque chose de facile. Le piège harmonique à 1D, on sait tous que les états d'énergie sont en n plus 1,5 de h bar oméga. Enfin, quand je dis on sait tous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est en n plus 1,5 de h bar oméga, où h bar oméga, c'est le quantum d'oscillation dans le piège. Oméga, c'est la pulsation de l'oscillation. Si je passe à deux dimensions, eh bien pour caractériser l'état d'oscillation de l'oscillateur, je dois dire comment il oscille selon x et comment il oscille selon y. Je vais me placer dans le cas où l'oscillateur est isotrope, donc je prends la même pulsation selon x et selon y. Et donc, je caractérise mon état d'oscillation par nx, qui est le quantum d'oscillation, enfin, le degré d'excitation selon x, et ny, le degré d'excitation selon y. Je somme nx plus 1,5 et ny plus 1,5, et j'obtiens donc nx plus ny plus 1 fois h bar oméga. Donc ça, c'est les énergies propres de mon oscillateur à deux dimensions. Une fois que j'ai dit ça, vous savez maintenant que la quantité à laquelle je dois m'intéresser, c'est la densité d'état, D2E. Et ce qu'on voit aisément, c'est que cette densité d'état D2E, eh bien, au lieu d'être constante, comme c'était le cas dans une boîte, elle va augmenter linéairement avec E. Et la manière simple de comprendre ça, eh bien, c'est de regarder la structure des différents niveaux ici. L'état fondamental, quand j'écris E sous cette forme-là, il n'y a qu'une manière de l'obtenir, c'est en prenant nx égale 0, ny égale 0. Pour que mon oscillateur 2D soit au repos, eh bien, il faut que les deux mouvements selon x et selon y soient tous les deux au repos. Donc là, c'est simple. Si je prends le premier niveau excité ici, premier niveau excité, donc, qui correspond à prendre ici 1 plus 1 h bar oméga, 2 h bar oméga. Mais j'ai deux manières de le faire. Je peux prendre nx égale 1, ny égale 0, c'est-à-dire exciter le mouvement selon x tout en laissant le mouvement selon y dans l'état fondamental, mais je peux aussi exciter selon y en laissant x dans l'état fondamental. Donc ici, j'ai mis deux traits qui correspondent aux deux manières de réaliser nx plus ny égale 1. Ça peut être 1, 0 ou 0, 1. Et puis ici, j'ai trois traits, puisque là, je peux faire, pour produire un état doublement excité, je peux faire deux quantas selon x et 0 selon y, 1x, 1y, ou alors 0 selon x et 2 selon y. Donc ça, ce sont les trois états indépendants ici. Et puis vous comprenez aisément que plus ça va monter, plus j'en aurai. La dégénérescence ici varie comme le n, où n est le nombre d'excitations. Et donc ça me justifie pourquoi la densité d'état vaut E. Un moyen simple de le voir, c'est de dire, je vais prendre des tranches DE qui ont une largeur h bar oméga, et je vais compter à chaque fois combien j'ai d'états possibles. Donc dans cette tranche-là, j'ai un état possible, dans la tranche suivante, j'en ai deux, dans la tranche suivante, j'en ai trois, etc. Donc mon nombre d'états va croître linéairement avec l'énergie de ma tranche que je vais considérer, j'ai donc cette densité d'état qui varie comme E. Et une fois que je dis ça, eh bien, vous comprenez que l'argument que j'avais tout à l'heure, qui me disait que je n'avais pas de condensation dans une boîte, eh bien cet argument n'est plus valable maintenant. Parce que quand je prends l'intégrale que j'avais écrite tout à l'heure, mais maintenant que le D2E que j'ai ici varie linéairement avec E, eh bien l'intégrale va converger, elle converge toujours en l'infini, ça, il n'y a pas de problème, mais elle va aussi converger en zéro, puisque le E du numérateur va me compenser le E qui apparaît au dénominateur quand E tend vers zéro. Donc on trouve que dans un piège harmonique à deux dimensions, eh bien la population des états excités sature, sa population des états excités est bornée supérieurement, la borne cette fois-ci redevient significative, comme c'était le cas à trois dimensions, et cette borne, en fait, on peut l'écrire comme kt sur h bar oméga au carré, c'est ce qui vient remplacer le volume de la boîte qu'on avait à 3D, là maintenant ça fait intervenir toujours la température, bien sûr, mais le h bar oméga, le quantum de l'oscillation dans le piège, le terme numérique qui est devant, là en l'occurrence il y a une expression simple, c'est pi 2 sur 6, et on retrouve donc un condensat comme à 3D. Quand mu tend vers 0, eh bien, mon nombre d'états de particules dans les états, tous les états excités du piège est borné supérieurement. Mais il y a un mais, quand même. Le condensat qu'on produit ainsi, c'est un condensat qui est malgré tout singulier. Et pour comprendre cette singularité, le moyen le plus simple, c'est de regarder comment se comporte la densité dans le piège. Quand je suis dans une boîte, la densité est uniforme, il n'y a pas de problème. Mais dans un piège, la densité, elle est plus grande au fond du piège que sur les bords. Et donc, ce que je vous propose de regarder, c'est comment varie la densité quand la condensation se produit. Alors, pour ça, je vais avoir recours à ce qu'on appelle une approximation semi-classique, qui est valable si la température KBT est grande devant le quantum h bar oméga associé à l'oscillateur harmonique. Et cette approximation semi-classique, quand on l'a fait, elle consiste à remplacer la distribution de Bose-Einstein qui est écrite ici, donc qui est une distribution en fonction de l'énergie de la particule, par une distribution qui porte à la fois sur la position R de la particule et l'impulsion P de la particule. Donc ça consiste à remplacer cette N de E par un W de R et P, où je remplace là-dedans l'énergie grand E par ce qui serait l'énergie d'une particule classique d'impulsion P et de position R, donc je remplace le E par P carré sur 2M plus 1,5 de M oméga 2 R2, toujours divisé par KT moins 1. Alors cette approximation semi-classique, en fait, elle n'est pas si simple que ça à justifier. Je crois que les premiers à l'avoir introduit, c'est le groupe de Trento, de Sandro Stringari. Un moyen pour la justifier, c'est de passer par ce qu'on appelle la distribution de Wigner en physique quantique, qui est une quasi-distribution de densité dans l'espace des phases, un W de Rp, mais c'est une quasi-distribution parce que c'est quelque chose qui peut être positif ou négatif. Ce n'est pas forcément vraiment une densité de probabilité. Et puis ensuite, ça consiste à lisser cette quasi-distribution, la lisser en disant qu'on s'interdit de regarder des choses avec un détail trop fin, c'est-à-dire qu'on s'interdit de regarder des choses avec une précision en R, delta R, et une précision en P, delta P, tel que le produit des précisions serait meilleur que H bar. C'est-à-dire qu'on s'interdit de violer l'inégalité de Heisenberg, essentiellement, ce qui est toujours sage en mécanique quantique. Pour le dire autrement, si vous essayez d'écrire une vraie distribution d'espace des phases en mécanique quantique, si vous essayez d'écrire une vraie distribution qui vous donne à la fois la position R de la particule et la position P de la particule, et l'impulsion P de la particule, ben vous savez que vous ne pouvez pas y arriver, puisqu'on ne peut pas connaître à la fois la position et l'impulsion. Donc, on est obligé de renoncer à une vraie distribution dans l'espace des phases en mécanique quantique, et la seule chose qu'on peut faire, c'est soit prendre des quasi-distributions, c'est Wigner, ou alors se dire, on va prendre une distribution, mais en la lissant, en la regardant avec une moyenne à gros grains, et c'est ça que représente ce W de RP-là. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, j'ai donné une référence dans les notes. Cette distribution est discutée dans un cours qu'avait fait Yvan Castin aux Ouches il y a un certain nombre d'années. Donc, la justification, vous pourrez la trouver là. Voilà. Donc, regardez cette distribution comme avec des pincettes. On ne veut pas aller voir ce qui se passe à l'échelle de H-bar dans l'espace des phases, mais comme la température KBT est supposée être grande devant H-bar oméga, eh bien, c'est pas grave, on a quand même avec ça une vision assez globale de cette distribution. Et maintenant, une fois qu'on a accepté d'écrire ce W de RP, eh bien, on peut l'utiliser pour intégrer sur l'impulsion, ce qui nous donne la distribution en position, c'est ce que je vais faire. On peut aussi l'utiliser en intégrant sur la position, et ça nous donne la distribution en impulsion. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors, calculons la distribution en position, le ρ de R, donc je prends le W de RP que j'ai écrit ici, et je l'intègre sur les impulsions des deux P. Et là, à ce moment-là, c'est une intégrale qui est facile à calculer. Je ne le fais pas explicitement, mais ça ne présente pas de difficulté. Et je trouve de nouveau un logarithme. Et ce logarithme, c'est son argument, c'est 1 moins exponentielle de moins m oméga 2 R2 sur 2KT. Et je vais m'intéresser à ce qui se passe au voisinage du fond du piège. Donc je vais faire tendre R vers 0 là-dedans. Et à ce moment-là, eh bien, toujours le même petit jeu, comme quand l'argument de l'exponentielle tend vers 0, je peux remplacer l'exponentielle par 1 plus son argument, le 1 va se compenser avec celui-ci, et tout ce que je vais récupérer après, c'est donc le log de l'argument, c'est-à-dire le log de R2, plus les termes constants, mais que je mets à côté. Donc je trouve que la densité dans le piège, ρ de R, varie comme log de R2. Et ça, eh bien, log de R2, vous voyez tous que ça va diverger en R égale 0. Et c'est ça le mais que je mettais à la diapositive précédente, c'est pour ça que je vous dis que ce condensat est singulier. C'est que certes, j'ai une condensation qui se produit dans un piège harmonique à deux dimensions, mais le prix à payer pour cette condensation, c'est que la densité spatiale devienne infinie au centre du piège. Elle doit tendre vers l'infini, logarithmiquement, en R égale 0. Alors, vous pourriez vous dire, mais c'est dramatique, une densité qui devient infinie, c'est pas possible. Alors, mathématiquement, il n'y a rien d'incorrect. C'est-à-dire que, certes, la densité ρ de R diverge, mais l'intégrale de log de R2, elle, converge bien, donc c'est bien compatible avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le nombre d'atomes qu'il faut mettre pour que ça condense est fini. c'était le pi 2 sur 6 fois le kt sur h bar oméga au carré, ça marche bien. Donc, il n'y a pas mathématiquement de problème avec cette densité qui devient infinie. Mais sur le plan physique, en revanche, il y a des problèmes, parce qu'on sait bien que des atomes, ils ont tendance à se repousser à courte distance. Donc, avec des atomes, je ne vais jamais arriver à faire une densité infinie. Et donc, une question légitime, c'est comment est-ce que cette densité qui tend vers l'infini va pouvoir être compatible avec des interactions répulsives entre atomes. Ça, c'est quelque chose, donc c'est là que la transition Kossoritz-Sahulès va apparaître naturellement dans les cours qui vont suivre. Alors, vous pourriez vous dire, mais finalement, cette densité infinie que je trouve au fond du piège, est-ce qu'elle était là aussi à 3D ? Et la réponse est non. À 3 dimensions, il n'y avait strictement aucun problème. Si vous faites exactement le même calcul que ce que j'ai fait à 2D, mais vous le faites à 3 dimensions, à ce moment-là, avec la même approximation semi-classique que j'ai écrite à la diapositive précédente, vous calculez rho de R, et vous trouvez qu'au fond d'un piège harmonique à 3 dimensions, eh bien, le rho de R ne tend pas du tout vers l'infini, ne se comporte pas du tout comme log de R2, il tend vers une valeur qui est 2.612 sur lambda t cube, et ça, ce n'est rien d'autre que la densité qu'on avait dans une boîte. Donc, dans un piège 3D ou dans une boîte, il y a une correspondance 1 à 1 des résultats, c'est-à-dire que dans un piège 3D, pour avoir condensation, eh bien, il faut que la densité au centre du piège soit égale à la valeur qu'il faudrait avoir dans une boîte pour la même température. Donc il y a bien correspondance, comme je dis, 1 à 1 des résultats. Et on peut dire en quelque sorte qu'à deux dimensions aussi, il y a correspondance 1 à 1 des résultats, puisque ce qu'on a dit, c'est que dans une boîte à deux dimensions, il n'y a pas condensation, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre une densité infinie dans la boîte pour condenser. Eh bien, dans le piège, c'est aussi ce qui se passe. Il faut mettre une densité infinie, mais au centre, pour condenser. C'est vraiment une densité infinie. Encore une fois, physiquement, c'est difficile à accepter. On sait bien qu'on ne va pas y arriver pour des particules matérielles en pratique. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le cas général du piège harmonique à 2D. Et j'aimerais maintenant passer sur une situation où finalement ce gaz idéal a été presque réalisé. C'est jamais parfait, évidemment, mais c'est presque, le cas presque idéal est réalisé. Et il est réalisé avec des photons en cavité. Donc, ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est ces expériences qui ont été faites à Bonn au cours des 5 dernières années, qui a consisté à traiter des photons comme des particules matérielles avec une masse non nulle dans un piège harmonique avec une raideur non nulle et montrer qu'on pouvait avoir condensation pour ce système. Alors ça pose plein de questions, hein, et je vais commencer par répondre à ces questions avant de vous montrer les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des photons qui sont massifs, qui sont piégés et qui condensent ? Alors déjà, ça commence mal. Des photons massifs, on n'est pas très habitué à ça. Hein. Enfin, je veux dire, les photons, jusqu'à nouvel ordre, dans l'espace à 3 dimensions, ils sont de masse nulle. Comment est-ce que, dans l'expérience de Bonn, ils peuvent acquérir une masse à 2 dimensions ? Donc je vais essayer de répondre à cette question. Deuxième question, on vient de voir que pour avoir un condensat à 2 dimensions, il faut confiner les particules dans un piège harmonique, enfin, dans un piège et, par exemple, un piège harmonique. Comment est-ce qu'on peut faire un piège harmonique pour des photons ? Troisième question, ceux d'entre vous qui ont fait la physique statistique du corps noir savent qu'en général, on attribue à des photons un potentiel chimique nul, mu égale zéro. C'est essentiel pour retrouver la formule de Planck du corps noir, et on peut donc se demander pourquoi est-ce que là, on va pouvoir prendre un potentiel chimique non nul qui va nous permettre d'observer des distributions thermiques et éventuellement condensées. Et puis, si on dit qu'on a condensation de Bose-Einstein, ça veut dire qu'on a une accumulation macroscopique de particules dans un état, donc l'état fondamental du piège harmonique. Finalement, pour des photons, on est habitué à avoir des accumulations macroscopiques de photons dans un état, c'est ce qu'on appelle un laser. Donc en quoi est-ce qu'on peut distinguer ce qui est produit à Bonn d'un laser ordinaire ? Voilà, donc ça, c'est les quatre questions que j'aimerais discuter dans cette partie sur l'expérience de Martin Weiss. Commençons donc par décrire le système, et ensuite, eh bien, on verra comment est-ce qu'on peut donner une masse aux particules. Alors, le système, le voilà. Le système, ça consiste à prendre une cavité optique, donc deux miroirs ici en bleu foncé, deux miroirs sphériques qui sont mis très proches l'un de l'autre, à une distance de l'ordre du micron, enfin 1,5 micron, et la cavité qui est formée a une grande finesse, typiquement 10 puissance 5, ce qui veut dire que les photons font de très nombreux allers-retours entre les miroirs avant de finir par sortir de cette cavité. À l'intérieur de cette cavité, ici, on met un milieu qui est essentiellement du méthanol avec des molécules de colorant, la rhodamine 6G, pour ceux qui connaissent, qui se souviennent des lasers à colorant qu'il y avait dans les laboratoires de physique atomique il y a une dizaine d'années ou un peu plus. Donc ça, ça nous fait un milieu qui a un indice qui vaut un 33. Alors, cette expérience est faite avec des photons qui ont une longueur d'onde qui est dans une certaine gamme. Cette gamme, elle est typiquement entre 500 et 580 nanomètres. Et l'épaisseur de la cavité ici, 1,5 micron, elle est choisie, donc, comme j'ai dit, très petite. Elle est choisie très petite pour que tous ces photons de toute cette gamme ici, qui correspond plus ou moins à la gamme de fluorescence des molécules du colorant, toute cette gamme soit dans ce qu'on appelle un seul intervalle spectral libre. C'est-à-dire que quand je regarde comment est-ce que la longueur de la cavité L est reliée à la longueur d'onde lambda sur N0 des photons, eh bien tous ces photons vont correspondre au même rapport, au même nombre entier, entre la longueur de la cavité d'une part et puis cette longueur d'onde lambda sur N0. Plus précisément, on est dans une situation où L vaut N fois lambda sur 2N0 avec N égale 7. C'est ce qui est représenté ici. Vous voyez que le petit train d'onde qui est là fait 3 oscillations et demie. Donc, c'est le N sur 2 qui est là, qui correspond donc à N égale 7. Si vous prenez le mode, ce qu'on appelle un mode longitudinal suivant de la cavité, c'est-à-dire soit N égale 8, soit le mode précédent qui est N égale 6, eh bien, les longueurs d'onde qui seraient associées à ces modes N égale 6 ou N égale 8 seraient dans des longueurs d'onde qui sont au-delà de cette gamme, soit plus sur le bleu, soit plus sur le rouge, et c'est des longueurs d'onde qui ne sont pas du tout atteintes par la fluorescence des molécules du colorant. Donc, on peut ignorer les modes N égale 6 ou N égale 8, ou tous les autres, et finalement, on peut se concentrer sur le mode N égale 7 pour décrire l'état des photons dans la cavité, et donc ça revient à dire qu'on a gelé le degré de liberté des photons selon Z, on a imposé que, pour ce qui est du mouvement selon Z, c'est-à-dire selon l'axe de cavité, eh bien, les photons soient tous dans le même mode de cette cavité, le même mode longitudinal, N égale 7. Alors, le dernier ingrédient, c'est un laser de pompage, qui est écrit ici, qui précisément va jouer le rôle d'excitateur des molécules de la cavité. Donc, en éclairant le colorant avec ce laser ici, on va prendre des molécules, enfin, je vais le décrire plus en détail, on va les porter dans l'état excité. Ces molécules vont émettre des photons en retombant dans l'état fondamental, et ce sont ces photons qui vont être stockés dans ce mode N égale 7 de la cavité ici. Alors pourquoi est-ce que ces photons ont une masse sur le plan bidimensionnel? Eh bien, ça vient simplement de la relation de dispersion que je suis capable d'écrire une fois que j'ai figé le mode longitudinal. Une fois qu'on a dit donc, que les photons étaient dans le mode N égale 7, ça veut dire que leur vecteur d'onde KZ peut s'écrire N fois pi sur L avec N égale 7. Et donc quand je prends la relation entre l'énergie du photon et puis son vecteur d'onde, E égale H bar oméga égale H bar C, fois module de K sur l'indice N0. Module de K, c'est donc racine de KZ carré plus K perp carré. Je prends ici une image très corpusculaire pour les photons. Ce module de K, c'est racine de KZ carré plus K perp carré. Et si je me place dans ce qu'on appelle l'approximation paraxiale, qui consiste à dire que les impulsions transverses de mes photons K perp sont petites devant KZ, eh bien je vais pouvoir faire un développement limité de cette racine ici. Et en sortant donc le KZ de la racine, j'obtiens 1 plus K perp carré sur KZ carré racine, et racine de 1 plus epsilon, c'est 1 plus epsilon sur 2, donc j'ai K perp carré sur 2 fois KZ carré ici. Et donc quand je réécris ça, eh bien je peux le réécrire sous cette forme-là, une quantité constante qui vient du 1, et puis un terme qui est un terme quadratique en K perp carré. Et une relation de dispersion qui relie l'énergie au carré de l'impulsion, ou carré du vecteur d'onde, ben ça c'est une relation de dispersion d'une particule massive. D'accord ? Et donc, je peux réinterpréter le coefficient qui vient se mettre devant K perp carré comme étant la définition d'une masse effective que je donne aux photons. Alors, attention, je ne suis pas du tout en train de violer les principes fondamentaux de l'électrodynamique quantique ou de l'électromagnétisme. Cette masse qu'on donne aux photons, c'est simplement pour le mouvement transverse des photons dans la cavité. La relation de dispersion reste toujours H bar oméga égale module de K, et pas autre chose. Mais vis-à-vis du mouvement transverse K perp, eh bien, j'ai ici une relation quadratique. Quelle est cette masse? Eh bien, cette masse donc, elle s'exprime en fonction des paramètres, des principaux paramètres du problème. Donc, vous retrouvez ici H bar, vous trouvez l'indice N0 qui vaut un 33, le KZ que j'obtiens simplement en connaissant la longueur de ma cavité, le mode N égale 7, la vitesse de la lumière C. Et donc, quand vous calculez la masse du photon, eh bien, vous trouvez qu'elle vaut 0,7, ici, 10-35 kg dans cette expérience. Ça, c'est très petit. Hein. C'est plus petit que la masse de n'importe quelle particule matérielle connue. L'électron, je vous rappelle, c'est 0,9 10 moins 30 kg. Donc ici, je suis avec une masse qui est 10 puissance 5 fois plus basse que la masse de l'électron, 100 000 fois plus petite que la masse de l'électron. Et puis par ailleurs, donc, j'ai cette énergie H bar oméga 0, qui est l'énergie d'un photon qui va donc tout droit, qui a un K-perp égal à 0, et ça fait intervenir 1 sur L, où L est la longueur de la cavité. Ça va jouer un rôle dans la diapositive précédente, dans la diapositive suivante. Cette diapositive, elle est consacrée au potentiel maintenant. On a vu comment donner une masse aux particules, aux photons. Pourquoi est-ce qu'il y a un potentiel harmonique pour les photons ? Eh bien, précisément parce que ce h bar oméga 0 varie en 1 sur L. Et si je prends un photon qui est au centre ici et un photon qui est sur le bord là, eh bien, il ne voit pas la même longueur de la cavité. Le photon qui est au centre voit la longueur L0 et le photon qui est sur le bord voit une longueur réduite parce que mes miroirs sont courbés et la longueur en L de R, donc, c'est quelque chose que je peux calculer, c'est de géométrie simple, en fonction du rayon de courbure de mes miroirs grand R et puis donc de l'écart petit r à l'axe, ici. Là encore, je vais pouvoir faire un développement limité. Grand R, dans l'expérience, les rayons de courbure de la cavité sont de l'ordre du mètre. Et les R que je considère ici sont très petits, hein, enfin c'est quelques centaines de microns. Donc je peux faire un développement limité, et je me récupère encore quelque chose qui est quadratique en petit r. Et donc, quand j'injecte cette longueur grand L de R dans le dénominateur qui est ici, eh bien ce que je trouve, c'est un H bar oméga 0 de R, ici, donc l'énergie que doit avoir un photon quand il est à cet endroit-là, eh bien, cette énergie, c'est l'énergie du photon s'il est au centre, plus un terme qui est donc positif et qui varie comme R carré, et le coefficient qui est devant ce terme, connaissant la masse du photon que j'ai trouvé précédemment, eh bien, je peux le réinterpréter comme M, enfin le réécrire comme 1,5 de M fois grand oméga carré fois R2, où grand oméga, c'est une pulsation de l'oscillation dans le mouvement transverse de mes photons. Et ce grand oméga donc, s'écrit en fonction, là encore, des paramètres fondamentaux de mon problème, qui sont la vitesse de la lumière, l'indice de mon milieu, et puis la longueur de la cavité qui, au centre qui vaut 1,5 microns, et les rayons de courbure du miroir. Et avec ça, je trouve une pulsation, ou plutôt une fréquence, pulsation sur 2π, qui vaut 40 GHz. Donc, j'ai fait un traitement qui était complètement corpusculaire, et je suis arrivé donc, à une relation qui est exactement celle pour une particule dans un piège harmonique, à savoir un terme d'énergie cinétique qui est en carré de l'impulsion divisé par 2 fois la masse, plus un terme d'énergie potentielle qui est en 1,5 de m oméga 2 R2. Alors, on aurait pu faire un traitement complètement opposé à ce traitement corpusculaire, qui est un traitement qui consiste à regarder, faire de l'électromagnétisme, regarder la forme des ondes dans cette cavité. C'est un traitement, pour ceux qui connaissent ça, qui est fondé donc sur les modes gaussiens de cette cavité. Et on aurait obtenu, à la fin, des résultats équivalents. Là, j'ai privilégié un traitement corpusculaire par rapport à ce traitement ondulatoire qui consiste à regarder les modes de la cavité, parce que ce que je veux, c'est me connecter à la physique de cette condensation de particules matérielles dans un piège harmonique. Hein. Mais ce traitement-là est finalement le dual du point de vue corpusculaire du traitement ondulatoire habituel de la physique des cavités. Il n'y a, pas de choses radicalement nouvelles là-dedans, même si le résultat peut être surprenant à première vue. Donc une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on peut faire de la thermodynamique. On a établi donc ce qui se passait au niveau de la particule unique. Qu'en est-il maintenant de l'état d'équilibre à température T fixée ? Alors pour ça, regardons déjà ce qui se passe au niveau des molécules du colorant. Donc le colorant, c'est tridamine 6G, je peux la modéliser comme un système à deux niveaux, pour aller très vite. Un premier niveau G qui correspond à la molécule dans son état électronique fondamental, un niveau excité E qui correspond à la molécule dans son état électronique excité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce niveau fondamental est constitué d'une foultitude d'états, d'états différents. C'est des états qui correspondent à toutes les possibilités qu'a la molécule de vibrer, de tourner sur elle-même. Et donc là, j'ai un quasi-continuum de niveau d'énergie. Même chose pour l'état excité. Et un point important, c'est que les constantes de temps de relaxation de ces états rho-vibrationnels ici et là, ces constantes de temps sont extrêmement brèves. Elles se situent dans le domaine de la femtoseconde, 10 moins 15 secondes, ou quelques femtosecondes. Et ce temps-là, il est beaucoup plus court que le temps qu'il faut pour la molécule, quand elle est dans son état excité, pour retomber, en émettant un photon, dans son état fondamental. La molécule, quand elle est là-haut, elle va donc relaxer sous l'effet des collisions avec le bain de méthanol. Ça va se thermaliser ici, et puis à un moment où, à l'échelle de 10^-9 secondes, eh bien, elle va retomber de là à là. Donc vous avez ces deux constantes de temps qui sont très différentes, de 10^-15 secondes, la femtoseconde pour la relaxation à l'intérieur du niveau E ou à l'intérieur du niveau G, et puis vous avez les transferts de E vers G, qui se font par émission spontanée, ou par émission stimulée, mais ça je vais y revenir, qui, eux, se font à l'échelle de 10^-9 secondes. Donc vous avez ce processus-là, quand j'éclaire avec le laser de pompage, où ma molécule donc, peut passer de l'état G à l'état E, en absorbant un photon, et puis vice-versa, en émettant un photon. Donc, je viens de vous dire que vous avez cette relaxation revibrationnelle très rapide à l'échelle de la femtoseconde, qui va donc garantir un équilibre thermique à l'intérieur de ce continuum-là, un autre équilibre thermique à l'intérieur de ce continuum-là. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si je regarde la population, enfin l'écart, le rapport entre la population d'un état d'énergie E plus H bar oméga là-haut et d'un état d'énergie E ici, eh bien, je vais avoir cet équilibre thermique garanti par la relaxation rapide là-haut et la relaxation rapide là en bas. Donc, je vais pouvoir écrire ça sous la forme une constante sur laquelle je vais revenir, exponentielle moins h bar oméga sur kt, où le t que je mets ici, c'est la température du bain dans le baie dans lequel est située ma molécule de rhodamine, le bain de méthanol. Là, j'ai mis un facteur z, et ce facteur z, lui, il n'est pas thermique. Ce facteur Z, il est imposé par la puissance du laser de pompage. Plus le laser de pompage sera intense, plus je mettrai de molécules dans l'état excité, donc plus la population d'un niveau d'énergie E plus H bar oméga sera grande par rapport à la population du niveau du bas. Donc le Z que je mets ici, lui, il n'est pas déduit de l'équilibre thermodynamique du colorant, il est imposé par mon laser de pompage que je peux régler plus ou moins intense, donc je vais pouvoir mettre plus ou moins de particules globalement là-haut par rapport à ce que j'ai globalement en bas. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai mis une molécule dans l'état excité, eh bien là, à ce moment-là, elle se thermalise très rapidement grâce aux interactions revibrationnelles. Donc, vous avez ces deux, ce double jeu, hein, un jeu thermique à l'intérieur des continua qui me garantit que j'ai bien la température T du colorant ici, et puis un jeu qui est non thermique, qui est le jeu du pompage avec le laser, qui me donne la valeur de Z ici, qui est donc un Z qui est ajustable avec cette puissance. Maintenant, comment est-ce que les photons vont s'adapter à ça ? Quelle est la thermodynamique des photons, maintenant qu'on sait ce qui se passe pour les molécules de colorant ? Eh bien, appelons n ronde d'oméga le nombre de photons dans un mode d'énergie H bar oméga. Je vais faire ici un traitement très simple, en termes de bilan détaillé. Il y a moyen de faire des choses beaucoup plus sophistiquées, et dans les articles du groupe de Martin Weitz, vous aurez des traitements plus détaillés, je les ai mis en référence, si vous voulez. Mais faisons un argument très simple pour dire que le nombre de photons va s'ajuster à l'équilibre que je viens de vous donner pour les molécules du colorant. Donc, regardons en un premier temps le processus d'absorption. Donc, qu'est-ce qui me caractérise l'absorption qui me fait passer de G à E ? Eh bien, je dois prendre le nombre de photons dans le mode d'énergie H bar oméga, ici, N d'oméga, et je dois le multiplier par le nombre de molécules qui sont dans l'état de départ. Donc ça, c'est le processus d'absorption qui sont à gauche. À droite, je vais avoir ce qui contribue à la descente d'un état donné ici vers un autre état là. Et je vais avoir quoi ? Bien, je vais avoir l'émission spontanée, le 1 qui est ici, plus l'émission stimulée, le fait que j'ai déjà des photons présents dans ce mode de la cavité, fois le nombre de molécules disponibles pour engendrer cette émission de photons, NE de E plus H bar oméga. Quand on écrit ça, eh bien, après, c'est très simple de conclure, puisque je me contente simplement de faire passer le 1 plus n au dénominateur ici, donc j'obtiens n ronde sur 1 plus n ronde égale ce NE sur NG que j'ai trouvé tout à l'heure, qui est ce Z exponentiel moins H bar oméga sur KT, et cette loi-là, eh bien, je peux facilement la résoudre, donc l'inverser, et ça me donne simplement n d'oméga égale 1 sur 1 moins 1 sur Z exponentiel de H bar oméga sur KT moins 1. Je trouve comme ça une distribution de Bose-Einstein, mais une distribution de Bose-Einstein avec une fugacité différente de 1. Le Z que j'écris ici correspond à une fugacité différente de 1, donc un potentiel chimique différent de 0. Donc, je récupère un gaz de photon qui n'est pas le gaz auquel on est habitué quand on traite le rayonnement du corps noir, où on impose un mu égale 0. J'ai ici à ma disposition un gaz de photon de potentiel chimique ajustable. Alors, comment est-ce que j'ai cette différence avec le rayonnement du corps noir? D'où elle vient, cette différence? Eh bien, je vais revenir sur cette diapositive, sur l'argument qu'on donne habituellement pour le rayonnement du corps noir, pour justifier pourquoi on impose mu égale 0. Quand vous situez le rayonnement du corps noir, on dit souvent c'est parce que le nombre de photons n'est pas conservé qu'on met mu égale 0. C'est vrai, mais je dirais que c'est un petit peu court comme argument, parce que dans l'expérience de Bonne, le nombre de photons n'est pas conservé non plus. Mes photons peuvent être absorbés par les molécules du colorant, ils peuvent être émis, donc la conservation du nombre de photons n'est pas en tant que telle suffisante. Il me semble que le bon argument à dire, c'est le suivant. C'est de dire que dans le rayonnement du corps noir, vous avez toutes les couleurs qui sont présentes, et vous avez des processus, parmi plein d'autres, où vous pouvez avoir un photon de grande énergie, disons un photon bleu, qui est absorbé par une des molécules qui composent les parois de votre four dans lequel il y a le rayonnement du corps noir. Donc, ça se transforme en excitation des parois. Et ensuite, cette excitation peut se déexciter et donner naissance à deux photons rouges. C'est-à-dire que vous avez un photon bleu qui a été transformé en deux photons rouges. Et puis, évidemment, vous avez le processus inverse. Donc, quand on dit que le nombre de photons n'est pas conservé, dans le rayonnement du corps noir, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Il faut dire que vous avez des processus où vous transformez un photon en deux photons, ou n photons en n prime photons, si vous préférez, plus généralement. Et une fois qu'on a dit ça, alors là, c'est clair qu'il faut prendre mu égale 0, parce que quand vous avez un équilibre entre un processus où vous avez une particule à gauche et deux particules à droite, et que ces particules sont de même nature, bien le seul moyen de garantir l'équilibre thermique, c'est de dire que mu doit être égal à 2 mu, donc que mu doit être égal à 0. Donc le mu égale 0 du rayonnement du corps noir, c'est vraiment lié à ça, c'est lié au fait que vous pouvez avoir un photon dans deux photons via ces excitations des parois. En revanche, dans l'expérience de Bonne, ce type de processus ne peut pas se produire, parce que vous travaillez dans un intervalle spectral libre n égale 7 bien précis, et il y a une conservation qui est présente, qui est donc que le nombre d'excitations totales est toujours le même dans le système, c'est-à-dire que vous avez, au niveau du processus élémentaire, un photon plus une molécule G, donne une molécule E. Donc là, l'excitation est portée par les molécules, là, l'excitation est portée par le champ, mais globalement, le nombre d'excitations reste constant. Donc, comme vous avez une constante du mouvement, ben, vous devez la prendre en compte d'une certaine manière. Elle se prend en compte via un paramètre de Lagrange, qui est précisément ce potentiel chimique. Et donc, on a effectivement un potentiel chimique non nul qui apparaît pour rendre compte de cette loi de conservation. Pour ceux qui veulent aller voir ça sur le plan plus mathématique, ce que je suis en train de vous dire, là, cette conservation du nombre d'excitations, c'est intimement lié à ce qu'on appelle l'approximation du champ tournant, le fait que pour décrire donc, l'expérience de Bonne, eh bien, vous pouvez vous placer dans une approximation où vous couplez l'opérateur création de photons à l'opérateur qui fait descendre la molécule de l'état excité à l'état fondamental, plus un autre terme qui est l'opérateur destruction de photons, un photon disparaît et la molécule passe de l'état fondamental à l'état excité. Donc cette loi de conservation, c'est lié intimement au fait que l'approximation du champ tournant est une bonne approximation pour décrire l'expérience de Bonne, alors qu'elle ne serait pas du tout une bonne approximation pour décrire le rayonnement du corps noir. Voilà, alors tout ça étant dit, que donne l'expérience? Eh bien l'expérience donne des résultats qui sont tout à fait en accord avec cette idée de condensation dans un piège harmonique à deux dimensions. Ici, j'ai tracé donc, un des premiers résultats obtenus à Bonne, qui consiste à regarder la lumière, le spectre de la lumière qui sort de la cavité en fonction de la longueur d'onde pour différentes puissances de pompage. Donc, tout à l'heure, je vous avais tracé des distributions en impulsion pour différentes densités dans l'espace des phases. Ben, le bouton qu'on tourne là pour varier dans l'espace des phases, c'est la puissance de pompage. La puissance de pompage varie ici entre 0,18 unité arbitraire à 14, donc il y a un facteur 100 entre la puissance de pompage du bas et la puissance de pompage du haut. Et ce que vous voyez, donc, c'est ici, vous avez tracé la longueur d'onde. Notez qu'ici, la longueur d'onde est croissante de gauche à droite, donc l'énergie, en fait, décroît de gauche à droite, alors que tout à l'heure, je faisais croître l'impulsion de gauche à droite. Donc il faut prendre l'image miroir, si vous voulez connecter ce qui est représenté ici à ce que j'avais tout à l'heure, il faut prendre l'image miroir. Mais à ceci près, c'est pas compliqué à voir. Là, ici, vous avez la longueur d'onde qui correspond à la coupure qui correspond au mode n égale 7. Donc, si vous voulez, c'est l'énergie nulle transverse du mode n égale 7 qui est là. Et ce que vous voyez, donc, c'est qu'à basse puissance de pompage, eh bien, vous avez des distributions qui sont essentiellement ajustées par des distributions à la Maxwell-Boltzmann. Le trait noir là-dedans, à chaque fois, c'est un ajustement pour une température T fixée, un potentiel chimique variable, ou un Z variable. Donc, l'ajustement est très bon. Et puis, quand vous augmentez la puissance de pompage, donc vous augmentez le potentiel chimique, eh bien, vous trouvez qu'il y a un pic qui apparaît au voisinage de zéro, qui correspond précisément à la condensation dans le mode fondamental de la cavité. Et ça, ça se voit directement à l'œil nu. Vous avez ici des images de la lumière qui sort de la cavité. Donc c'est finalement une distribution dans l'espace des positions, le N de R que j'avais calculé à l'approximation semi-classique tout à l'heure. Ça, c'est quand on est en dessous du seuil, donc c'est pour des courbes qui sont à peu près ici, où vous avez donc une répartition tout à fait continue. Il y a plus de lumière au centre que sur les bords, mais il n'y a pas, de variation brutale. Et puis quand vous passez au-dessus du seuil, donc vous avez augmenté suffisamment le potentiel chimique pour condenser, et là vous avez un spot très lumineux au centre qui correspond à l'accumulation de photons dans le mode fondamental de la cavité. Et le point où la condensation se produit, qui est à peu près ici, eh bien, ça correspond bien à ce qu'on attend à partir de la formule que j'ai donnée tout à l'heure. Je vous avais dit que ça variait comme KBT sur H bar oméga au carré. Je vous avais dit qu'il y avait un coefficient de vent qui était pi 2 sur 6. En fait, là, maintenant, ça est devenu un pi 2 sur 3. Ce n'est pas pour tricher, c'est juste que les photons ont deux états de polarisation donnés. Et donc, on condense dans les états de polarisation dans un sens et dans l'autre. Donc, il faut mettre deux fois plus de photons pour condenser que s'il y avait un seul état de polarisation. Donc on trouve comme ça le bon accord avec l'expérience. Le nombre de photons qu'il faut mettre pour condenser, c'est à peu près 60 000, l'intégrale de la courbe au moment où le petit pic ici apparaît. Alors le dernier point que je voudrais discuter, c'est finalement, est-ce qu'on a affaire à un condensat ou simplement à un laser d'un nouveau type ? Alors, c'est un problème qui est très débattu. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Est-ce que c'est simplement un nouveau laser ou est-ce que le mot condensat de Bose-Einstein est approprié. Personnellement, je pense qu'on peut parler de condensat dans ce cas-là. Je vous donne simplement les arguments pour et puis les arguments contre. Alors, les arguments pour, c'est que ici, on est vraiment dans un cas où la distribution énergétique, celle que vous venez de voir à la diapositive précédente, hein, celle-là, là, eh bien, cette distribution énergétique, elle fait vraiment apparaître un pic étroit au-dessus d'un piédestal qui est un piédestal thermique, qui est un piédestal vraiment caractérisé par une distribution d'équilibre thermodynamique. Ça, c'est très généralement absent pour un laser, même s'il y a des contre-exemples. Quand vous allez regarder les fluctuations du nombre de photons, ça, c'est d'autres manips qui ont été faites à Bonn après, quand vous allez regarder la fluctuation du nombre de photons, les fluctuations du nombre de photons dans le mode d'un laser, comme ce laser vert, ce pointeur laser vert que j'utilise, très souvent, elles sont poissonniennes, caractérisées par une distribution de poissons. Ici, dans ce système-là, elles sont nettement plus importantes et sont tout à fait bien caractérisées par ce qu'on attend à l'équipe thermodynamique pour l'ensemble grand canonique, qui est celui qui est pertinent pour décrire cette expérience où vous avez affaire à un système ouvert. Donc ces deux critères-là correspondent tout à fait à ce qu'on attend pour un condensat de Bose-Einstein décrit à l'ensemble grand canonique. Alors, maintenant, les arguments contre. Un premier argument, c'est de dire que ici, on n'est pas vraiment dans un état stationnaire au sens équipe thermodynamique d'un système fermé. On a affaire à un système ouvert. Si jamais j'éteins le laser de pompage, eh bien, aussitôt, évidemment, le système va s'interrompre puisque je n'aurai plus d'alimentation de mes molécules, les photons vont sortir de la cavité et je n'aurai plus rien à la fin. Donc, on est plutôt dans un régime forcé du colorant plutôt que dans un état d'équilibre au sens strict. Donc, si on veut vraiment parler de condensat, il faut en fait généraliser la notion de condensat à des systèmes ouverts, ce que les gens ont fait, et étudier à ce moment-là ce qui se passe. Et puis, un dernier argument qui vient de sortir, en fait, c'est dans un livre qui vient d'apparaître, c'est un argument émis par Jacopo Caruzotto et ses collègues, c'est que tout ça, c'est bien pour caractériser l'équilibre thermodynamique, mais on peut être un petit peu plus exigeant sur les critères qu'il faut pour vraiment qualifier ça de condensat de Bose-Einstein, et on peut aller chercher certaines relations de fluctuation-dissipation et voir si ces relations de fluctuation-dissipation sont effectivement vérifiées ou non par le système étudié à Bonn. Ça, à ma connaissance, ça n'a pas été fait, donc c'est un critère de plus sur la liste qu'il faut vérifier si on veut vraiment dire qu'on a vraiment une équipe thermodynamique au sens strict du terme. Eh bien, effectivement, ces relations de fluctuation-dissipation doivent être vérifiées. Et ça, c'est une chose qui reste à faire. Voilà. Donc, le bilan à ce stade, c'est le suivant. C'est que ce qu'on a vu, c'est que pour un gaz parfait de boson à la limite thermodynamique, on avait condensation dans un piège harmonique, mais cette condensation était singulière parce que la densité centrale tendait vers l'infini quand la fréquence du piège tendait vers zéro, quand on prenait un piège de plus en plus ouvert, et on n'avait pas de condensation dans une boîte à la limite thermodynamique. Et donc, à la question qui finalement nous taraude dans toute cette série de cours, à savoir est-ce qu'on peut avoir une transition de phase. Eh bien, la question, c'est est-ce que je peux avoir une transition de phase sans que la densité devienne infinie, ici ? Et la réponse à cette question, celle qu'on va voir dans les cours qui vont suivre, c'est que cette transition, elle sera possible, mais elle sera fondamentalement due aux interactions. Et ce sera donc le mécanisme BKT qu'on va étudier. Donc, on est amené à regarder les interactions dans un système 2D. Et c'est ça que j'aimerais faire dans les 15 minutes qui restent pour ce cours, c'est vous donner au moins une impression sur la manière dont on doit s'y prendre si on veut traiter les interactions dans un système 2D. Donc, c'est un problème donc, qui est le problème suivant. Comment traiter une collision binaire à deux dimensions? Une fois qu'on aura compris ça aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on étudiera comment est-ce qu'on met ça dans un système à l'équilibre thermodynamique. Mais aujourd'hui, on va revenir finalement à un problème de physique quantique très simple. C'est un problème à deux corps, je vais représenter ici, un problème à deux corps qui bougent dans un plan, qui interagissent par un potentiel U de R, enfin, donc, qui dépend de la distance R1 moins R2 entre les deux corps. Comment est-ce que je peux décrire l'interaction entre ces deux particules? Comment est-ce que je peux décrire la collision? Comment est-ce que, en particulier, ce traitement se compare à ce qu'on sait faire et ce qui est décrit dans tous les livres à trois dimensions? Alors, pour simplifier, je vais supposer que U de R a une symétrie radiale, donc il dépend seulement de modules de R, et je vais faire ce qu'on fait toujours quand on veut étudier le problème à deux corps, que ce soit le problème à deux corps classique ou le problème à deux corps quantique, c'est de séparer le mouvement du centre de masse du mouvement de la variable relative. Ça, on le fait pour le système Terre-Lune, on le fait aussi pour l'atome d'hydrogène, on le fait dans tous les cas. On se ramène finalement d'un problème à deux particules, un problème à une particule, en réécrivant cet Hamiltonien qui est ici, sous la forme de l'Hamiltonien du centre de masse plus l'Hamiltonien de la variable relative. Alors le centre de masse, je le définis de la manière suivante, l'impulsion du centre de masse, c'est la somme des impulsions, la position du centre de masse, c'est la moyenne arithmétique entre R1 et R2, la masse associée à cette variable centre de masse, c'est deux fois la masse d'une particule, c'est la masse totale, et l'Hamiltonien du centre de masse, simplement P carré sur 2M, donc ce mouvement du centre de masse est évident à traiter, hein, c'est simplement un mouvement de particules uniformes. Toute la physique intéressante est mise dans l'Hamiltonien de la variable relative, qui est le suivant, donc c'est petit p carré sur deux fois la masse réduite. La masse réduite, c'est la moitié de la masse d'une particule, quand les particules ont la masse, sont de même masse. Petit p, c'est 1,5 de p1 moins p2. Et petit r, la variable relative qui intervient ici, c'est r1 moins r2. Voilà. Et donc, toute la physique de la collision, celle qui va m'intéresser, elle est décrite par cet Hamiltonien H relatif. Donc, comme toujours dans le problème à deux corps, on se ramène au problème de la diffusion d'une particule unique de masse égale à la masse réduite dans un potentiel imposé de l'extérieur, qui est ce potentiel U de R. Donc, on va chercher ces états propres pour traiter la collision. Hein, on va chercher ces états propres de cet Hamiltonien P carré sur 2M plus U de R en se donnant pour U de R un potentiel qui est un potentiel typique qu'on rencontre en physique atomique, qui est un potentiel donc, qui est localisé au voisinage de l'origine. Typiquement, ça peut être un potentiel de Van der Waals en moins C6 sur R6, plus un cœur dur qui évite aux particules d'aller se mettre l'une sur l'autre. Donc la particule relative d'atteindre R égale 0. Et ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est vous réexpliquer ou vous expliquer le rôle de la barrière centrifuge et une simplification donc, importante qui se produit pour des collisions entre particules de basse énergie, qui est le fait qu'on peut traiter ces collisions entièrement dans l'onde, ce qu'on appelle l'onde S, c'est-à-dire des collisions isotropes. Alors, un point important du potentiel que j'ai écrit ici, c'est que c'est un potentiel qui est invariant par rotation. Je vous ai dit, ce potentiel U de R, il dépend seulement du module de R, mais pas du rayon vecteur. Et donc, mon Hamiltonien qui est écrit ici, un J-cinétique plus U de R, commute avec le moment cinétique. Donc je peux chercher mes états propres, ceux qui vont me décrire la collision ou la diffusion de ma particule relative, je peux les chercher, ces états propres, sous la forme d'une base propre commune à cet Hamiltonien que je cherche à diagonaliser, plus l'opérateur moment cinétique. Et dire d'une fonction d'onde qu'elle est l'état propre de l'opérateur moment cinétique, ça précise entièrement sa partie angulaire, en particulier les états de moment cinétique nul sont des états isotropes, et puis les états de moment cinétique non nul sont des états avec une partie angulaire plus compliquée. Et quand vous regardez ce qui se passe pour les états de moment cinétique non nul, eh bien, quand vous intégrez cette partie angulaire et que vous donc, vous ramenez simplement à l'Hamiltonien pour la variable radiale, eh bien, vous voyez apparaître dans l'Hamiltonien un terme de barrière centrifuge. Donc, pour les états de moment cinétique non nul, il apparaît un terme en plus 1 sur R2, qui est donc le terme d'énergie centrifuge, qui décrit la prise en compte du moment cinétique dans l'hamiltonien pour la variable radiale. Donc, je vous ai donné ici un exemple, en bleu. Vous avez ici, en pointillé, comme ça, simplement l'énergie centrifuge associée à un état de moment cinétique non nul. En l'occurrence, c'est l'état de moment cinétique L égale 1, mais bon, ils ont tous la même forme, ils sont tous en plus 1 sur R2. Et puis là, en trait continu bleu, j'ai superposé l'énergie centrifuge donc associée au moment cinétique au potentiel U de R, qui est donc en moins C6 sur R6, localisé au voisinage de l'origine, plus éventuellement un cœur dur que je n'ai pas dessiné, mais qui ferait remonter le potentiel ici. Et si maintenant je prends un état d'énergie E très faible, c'est le trait pointillé qui est comme ça, eh bien ce qu'on voit, c'est que dans ma diffusion de ma particule par le potentiel U de R, je vais arriver depuis R égale l'infini ici, je vais arriver ici, et puis je vais voir ici un point de rebroussement de mon mouvement classique, et donc essentiellement ma particule va faire demi-tour ici, et puis repartir. Et une particule donc, de basse énergie comme celle-ci qui fait demi-tour ici, eh bien, ce qu'elle voit finalement, c'est essentiellement la barrière centrifuge, le trait pointillé. Elle ne voit absolument pas la différence entre le trait pointillé et le trait plein. En d'autres termes, une particule de moment cinétique non nul ne voit pas le fait qu'il y a le potentiel U de R en C6 sur R6 plus le cœur dur. Elle ne voit que la barrière centrifuge. Donc ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle verrait s'il n'y avait pas de potentiel U de R, donc elle n'est pas diffusée essentiellement. En revanche, si je prends l'état de moment cinétique nul, l'état isotrope, l'état en onde S, ça c'est ce que j'ai dessiné en rouge ici. Alors lui, il n'a pas de barrière centrifuge puisque le moment cinétique est nul. Et donc ma particule qui arrive avec une énergie E faible, elle va arriver ici et puis là, elle va bien voir le cœur dur. Donc toute la physique intéressante pour la collision se passe pour ces états de onde S, ces états de moment cinétique nul. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. À basse énergie, le potentiel d'interaction ne joue un rôle que pour le canal de moment cinétique nul. J'ai affaire à des collisions en onde S qui sont donc isotropes. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est pour ces états dans l'onde S, isotropes, caractériser ce qu'on appelle les états stationnaires de diffusion, qui sont donc les états propres de l'hamiltonien qui caractérise cette diffusion de la particule par U de R. Donc, on prend des états qui sont une énergie positive, et les états stationnaires de diffusion, on les cherche sous une forme asymptotique particulière qui correspond bien à l'image physique d'une collision. On prend une particule avec une impulsion P initiale bien définie, c'est donc une onde plane, et puissance I cascale R, c'est l'onde plane incidente que j'ai représentée par ces traits rouges. Et puis, je m'attends à avoir donc quelque chose qui va être diffusé de manière isotrope par le potentiel centré en zéro, et c'est ce que j'ai dessiné là. En fait, j'aurais dû dessiner des cercles complets, mais je ne voulais pas faire un dessin trop compliqué. Et ce qui est diffusé, donc, si je suis à deux dimensions, eh bien, ça doit être une onde cylindrique sortante, un épuissance IKR sur racine de KR, et toute la physique de la collision est caractérisée par l'amplitude de diffusion f de k qui est là. Si l'amplitude est forte, eh bien f de k doit être grand. Si la collision est faible, eh bien f de k doit être petit. Donc ce qui m'intéresse, c'est le comportement de f de k, et je m'intéresse encore une fois à la limite de basse énergie, donc des vecteurs d'onde k qui vont tendre vers zéro. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien, revenons pendant une minute sur ce qui se passe à trois dimensions. À trois dimensions, on peut poser le problème exactement de la même façon. J'ai toujours mon potentiel ici que je vais supposer donc localisé, mon potentiel U de R localisé, je suppose portée petit b, donc je prends localisé dans un disque de diamètre 2b. J'ai toujours mon onde incidente et puissance IKX. J'ai toujours mon onde diffusée ici qui va donc être une onde sphérique, comme on va le voir, sortante. Comme je prends des collisions à faible énergie, donc je vais faire tendre K, le vecteur d'onde de ma particule, vers zéro. Donc, en particulier, je peux prendre le cas où k fois petit b, la portée du potentiel, est petite devant 1. Ça veut dire qu'il existe un rayon dans l'espace qui correspond donc à kr égale 1. Et ce rayon dans l'espace, eh bien, il est à l'extérieur de la portée du potentiel. C'est-à-dire que ce que je veux dire ici, c'est que j'ai finalement une région de l'espace qui est l'intérieur de ce disque ici, mais pas l'intérieur du disque 2b. Une région donc de rayon R qui est plus grande que B mais plus petite que K-1, pour laquelle la particule ne voit pas le potentiel, mais pour lequel donc KR est petit devant 1. Donc cette zone-là va jouer un rôle important dans ce qui va suivre. Donc étudions la forme que je vais chercher pour ma fonction d'onde radiale. J'ai éliminé la partie angulaire grâce au moment cinétique, à la prise en compte du moment cinétique, et donc je m'intéresse à la fonction radiale, qui est donc la superposition de l'onde sphérique sortante et puis de la partie radiale de l'onde entrante. Donc je dois écrire cette onde totale sous la forme d'une combinaison linéaire de E puissance plus ou moins IKR sur R, donc d'une onde sphérique sortante et d'une onde sphérique entrante, ou si vous préférez, je peux écrire ça comme superposition de sinus KR sur R et de cosinus KR sur R. Ça, c'est quand KR est grand de 20. Si je vais regarder ce que donne cette base de fonction à l'intérieur de mon disque, ici, eh bien, quand je prends la limite de sinus KR sur R au voisinage, enfin, quand je prends KR tendant vers 0, cette chose-là va me donner 1, enfin, K, mais le K, je peux le sortir, ce qui m'intéresse, c'est au comportement en fonction de R, donc ça va me donner 1, cette chose-là va me donner du 1 sur R, puisque le cosinus tend vers 0. Donc je dois chercher ma fonction d'onde ici, sous la forme d'une combinaison linéaire d'une fonction constante et d'une fonction à 1 sur R, et ça, effectivement, c'est ce qu'on fait. C'est là, à ce moment-là, il faut prendre en compte la forme du potentiel, réel U de R. Et si on prend en compte cette forme de potentiel réel U de R, qu'on impose la régularité de la fonction solution en R égale 0, eh bien, le potentiel U de R va nous imposer une combinaison particulière bien précise de 1 et de 1 sur R. Et cette combinaison linéaire, on peut l'écrire sous la forme C0, une constante de normalisation, fois 1 moins A sur R, et petit a, donc, qui est imposé par le potentiel, eh bien, c'est ce qu'on appelle la longueur de diffusion à trois dimensions, et c'est comme ça que le potentiel se manifeste. En fait. Il se manifeste par l'intermédiaire de cette constante ici, qui me relie dans cette zone intermédiaire les deux fonctions de base possibles, 1 et 1 sur R. Et l'amplitude de diffusion, à ce moment-là, est très simple. Dans la limite K tend vers 0, cette amplitude de diffusion, simplement moins A. Voilà. Donc on a, à 3D, quand on a fait ça, on a complètement caractérisé le problème. Qu'en est-il à deux dimensions ? À deux dimensions, on peut faire exactement la même gymnastique, toujours identifier cette zone intermédiaire. À l'extérieur, ce que je veux, c'est donc des ondes cylindriques. La superposition de l'onde entrante et de l'onde sortante va s'écrire comme une combinaison linéaire de ces deux ondes cylindriques sortantes et entrantes, donc les puissances plus ou moins IKR sur racine de R, que je peux réécrire comme sinus KR sur racine de R et cosinus KR sur racine de R. Et si je veux faire la même gymnastique qu'à trois dimensions, eh bien, si je suis naïf, je vais dire, ah ben, très bien, je prends la limite de ça quand KR tend vers 0, la limite de ça, et je me retrouve avec du racine de R et du 1 sur racine de R. Et puis je vais me dire, je vais chercher ma fonction comme combinaison linéaire de ces deux choses-là. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que E puissance IKR sur racine de R, que j'ai écrit ici, n'est pas du tout une solution exacte dans le cas U égale 0. C'est simplement une limite asymptotique. C'était bien une solution exacte à 3D. À 3D, quand j'ai écrit puissance plus IKR sur R, c'était bien une solution exacte de l'équation de Schrödinger pour I égale 0. Mais à 2D, ce n'est pas une solution exacte. C'est simplement une limite asymptotique. Et la limite asymptotique dans cette zone-là n'est pas la bonne. Donc, ce que j'ai écrit ici, il faut l'oublier. Et la bonne manière de faire les choses, c'est de chercher la solution exacte. Alors, à ce moment-là, on voit apparaître des fonctions spéciales. Je vais un petit peu vite parce que je vois que le temps passe, mais ça fait apparaître des fonctions spéciales, des fonctions de Bessel, en fait, des fonctions J0 et Y0, fonctions de Bessel de première et deuxième espèce. À l'extérieur, loin, pour KR grand devant 1, on retrouve bien les ondes sphériques, les ondes cylindriques entrantes et sortantes. Là, tout va bien. Mais quand on va se mettre dans cette zone-là, à ce moment-là, on ne trouve pas du tout les racines de R et les 1 sur racines de R que je donnais. Ce qu'on voit apparaître, c'est 1 et puis un log de KR. Et quand on voit ça, eh bien, ça veut dire que la fonction donc, qu'on doit prendre ici, dans cette zone centrale, doit être une combinaison linéaire de 1 et de log de R. Et cette chose-là, ça peut se réécrire comme C1 log de R sur A2. Et donc, la forme qu'il va falloir prendre pour notre fonction d'onde dans cette zone-là, c'est cette forme logarithmique, là, un logarithme de plus. Et la manière dont le potentiel ici se manifeste, eh bien, il se manifeste en imposant la valeur de ce coefficient petit a2, ce qu'on appelle une longueur de diffusion à deux dimensions. Et connaissant, une fois qu'on connaît a2, eh bien, on peut remonter à l'amplitude de diffusion. Et l'amplitude de diffusion, elle a une forme qui n'est vraiment pas agréable, mais c'est avec ça qu'il faut travailler si on veut être rigoureux. C'est une forme qui fait intervenir, elle aussi, un logarithme, mais elle n'est pas du tout aussi simple qu'à 3D, où simplement elle tend, à 3D, ça tendait vers une amplitude constante. Cette forme-là, eh bien, elle est l'allure suivante, c'est 1 sur 1 i sur 4 ici, et puis un moins 1 sur 2 pi log de k fois a2, précisément la longueur de diffusion à deux dimensions qui est apparue. Donc voilà, il faut vivre avec ça, c'est pas simple, mais c'est ça la vraie manière de décrire les collisions à 2D. Alors, dernière diapositive, ce que je vous ai fait là, c'était ce qui se passe vraiment dans un espace strictement deux dimensions. Nos particules, elles, vivent malgré tout dans l'espace à trois dimensions, même si vous gelez une des directions de l'espace, malgré tout, elles vivent à trois dimensions. Donc, il y a un point important qui est de relier cette physique à deux dimensions à ce qui se passe dans l'espace à 3D. Ça, ça a été fait au début des années 2000 par Petrov, Holtzman et Shchepnikov. Ils ont considéré donc une collision à deux dimensions, mais où la troisième dimension est gelée par un potentiel harmonique, et ce potentiel harmonique est caractérisé finalement par l'épaisseur qui donne à la fonction d'onde dans la troisième direction, donc c'est racine de h bar sur m oméga z, où oméga z est la pulsation de ce potentiel, c'est l'extension de l'état fondamental dans ce potentiel. Et le résultat auquel ils sont arrivés, eh bien, c'est un résultat qui a la même structure que le résultat strictement 2D, donc c'est le résultat qu'on va utiliser dans ce cours. C'est un résultat qui fait toujours intervenir une amplitude de diffusion f de k qui est à 1 sur un dénominateur avec un i sur 4, un terme en log de k, et puis un terme ici que j'ai mis sous la forme 1 sur g tilde. G tilde, vous allez en entendre parler beaucoup dans ce cours. Ce g tilde fait intervenir la longueur de diffusion à 3 dimensions et puis donc cette épaisseur du gaz à OH. Donc en ce sens, ça remplit bien le cahier des charges que je disais, puisque c'est bien une amplitude de diffusion 2D, mais ça connecte le problème avec le problème 3D, puisque ça fait intervenir la longueur de diffusion petit a à 3 dimensions, celle qu'on sait calculer et qu'on trouve dans les articles. Alors, un dernier point, très souvent, dans ce qui va suivre, mais pas toujours, eh bien, on sera dans un cas où, dans ce dénominateur-là, le terme dominant, ce sera le 1 sur g tilde. C'est-à-dire qu'on étudiera des cas où g tilde est petit devant 1, ou plus petit que 1, donc 1 sur g tilde est grand, puisque g tilde est petit, 1 sur g tilde est grand, donc en particulier 1 sur g tilde sera grand devant le i sur 4, que je pourrais oublier, grand devant 1 quart, et puis un logarithme, c'est jamais bien grand, et quand vous le divisez par 2 pi, c'est encore plus petit, et donc 1 sur g tilde, eh bien il sera aussi grand devant ça. Donc à ce moment-là, tout ira bien, tout sera simple, puisque quand je ferai ça, eh bien je pourrai remplacer ce dénominateur compliqué par 1 sur g tilde, donc prendre f de k de l'ordre de g tilde, c'est-à-dire que je récupérerai, comme à 3D, une amplitude de diffusion qui sera constante. Mais attention, ce ne sera pas toujours vrai. En particulier, on discutera dans un des cours vers la fin ce qu'on appelle des anomalies quantiques, où là, à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas ignorer ce terme logarithme-là, et ça viendra compliquer singulièrement la physique, mais l'enrichir aussi. Hein. Donc, il y a des choses en plus qui sont très, très intéressantes. Donc voilà, je termine avec ce bilan. J'aurais dépassé de 2 minutes, excusez-moi. Le gaz parfait à 2 dimensions, finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il pouvait être vu comme un cas particulier du théorème de Mervyn-Wagner, au sens où il n'y a pas d'ordre à longue portée. On a trouvé que ce G1 décroissait exponentiellement avec la distance. Mais en même temps, il est pauvre, puisqu'il ne présente pas non plus de transition de phase topologique. On n'a vu aucune singularité apparaître dans notre traitement. Et je répète ce que j'ai dit, les interactions sont indispensables pour faire émerger ces transitions de phase. La description de l'interaction est en général compliqué, mais on peut néanmoins la simplifier, et c'est ce qu'on fera la semaine prochaine, si on se limite à ce cas où g tilde est plus petit que 1, à ce moment-là, eh bien, on peut les décrire par une amplitude de diffusion constante, et là, à ce moment-là, eh bien, vous allez voir comment est-ce que la transition de Kosolitz-Staules peut émerger naturellement. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vous rappelle le séminaire que nous aurons d'ici un quart d'heure, donné par Klaus Mollmer, A Relaxed Approach to Quantum State Engineering. Klaus vient de l'Université d'Aarhus, mais je le présenterai plus en détail dans quelques minutes. Et d'ici là, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention.